C'est pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix. Je suis ravi de vous accompagner aujourd'hui comme chaque mardi à midi pour parler science avec différents invités. Nous sommes le mardi 14 mars et aujourd'hui découvrons ensemble ce qui se cache derrière le fonctionnement de nos ordinateurs et de nos téléphones, les algorithmes. Résoudre des problèmes, traiter des données, tout cela passe par des algorithmes. Le laboratoire AMAC du grec est venu nous éclairer sur la question avec Paul Dorbeck, responsable de l'équipe AMAC et Julien David, maître de conférence à l'université de Caen. Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine. On commence par le monde de la recherche qui coupe les ponts petit à petit avec la Russie. Cela fait plus d'un an que le conflit engagé par la Russie a démarré et les sanctions de la part de la communauté internationale ne se sont pas fait attendre, notamment de la part de la communauté scientifique. C'est le cas pour la Suisse et l'Allemagne qui, dès le début du conflit, ont rompu les travaux de coopération entre les chercheurs russes et biélorusses. Plus précisément, en Allemagne, les programmes de recherche financés ou co-financés par la Russie sont suspendus. Pas de bourse accordée aux chercheurs allemands en Russie, pas de conférences en commun, pas d'échange de matériel. Bref, le dialogue est rompu. En Suisse, même son de cloche, les échanges sont limités, voire inexistants. Les tensions viennent surtout au niveau du CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, le plus grand centre de physique des particules du monde situé en Suisse. C'est un espace de recherche fondamental pour toute la communauté scientifique internationale. La Russie est le deuxième pays le plus représenté au CERN, après les États-Unis, et se voir écarté de cette instance fait grincer les dents de certains. Une découverte prometteuse qui suscite beaucoup d'espoir, une piste pour guérir l'endométriose a été envisagée. Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement contre ces règles douloureuses qui touchent 10 à 20% des femmes en âge de procréer. Ces douleurs à l'abdomen sont dues à une prolifération incontrôlée des cellules dans la muqueuse utérine et des chercheurs japonais ont récemment fait régresser la maladie en faisant des tests sur des macaques en leur injectant un certain anticorps. Lors de fortes douleurs durant les menstruations des macaques, les chercheurs ont observé la sécrétion d'une protéine, l'interleukine 8, qui augmente la prolifération des cellules et l'inflammation des tissus. Le laboratoire pharmaceutique Chugai a injecté un anticorps à l'interleukine 8. Résultat, l'endométriose a régressé et les saignements chez les femmes singes ont été stoppés au bout de 6 mois. Des phases de test sont toujours en cours pour éviter les effets secondaires et un essai clinique a été lancé au Japon pour mettre à profit ces découvertes aux femmes atteintes par l'endométriose. Santé et découverte d'un traitement toujours, un vaccin contre l'asthme allergique aurait été trouvé. Ce sont des scientifiques de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'INSERM de Toulouse, de l'Institut Pasteur et de l'entreprise française Neovax qui se sont penchés sur le problème. Après des années de recherche et des tests chez les souris, ils ont réussi à bloquer grâce à un vaccin le déclenchement des crises d'asthme. Pour les humains, la cause principale des crises d'asthme sont les acariens, le pollen et la moisissure qui enflamment nos bronches. Les premiers résultats chez la souris montrent que le vaccin limiterait cette inflammation des bronches. Second résultat, le vaccin ne lutterait pas contre le virus envahisseur mais contre la réaction allergique. Pour l'instant, le traitement serait destiné aux personnes pour qui les traitements de base, la corticoïde par exemple, ne marchent pas, soit environ 10% des patients. Il voudra se montrer patient pour la suite, le vaccin pourrait être disponible que dans 10 ans, mais cette méthode de traitement ouvre la voie à d'autres vaccins qui pourraient soigner d'autres sortes d'allergies. Info astronomie maintenant avec une observation des étoiles inquiétante. Un astéroïde de 50 mètres de diamètre pourrait percuter la Terre en février 2046, le jour de la Saint-Valentin. Précisément, un astéroïde géocroiseur de la taille d'un terrain de handball a été découvert par les scientifiques le 26 février dernier. Il se déplace à une vitesse de 89 000 km par heure et se situe à une distance d'environ 10 millions de kilomètres de la Terre. Un astre qui rappelle celui de 1908 et qui avait détruit près de 2000 km² de la forêt amazonienne. Toujours selon les prédictions, l'astéroïde pourrait s'écraser le long d'un corridor entre le Sri Lanka et le nord-est des États-Unis ou s'abîmer au milieu de l'océan Pacifique. Pour vous donner un ordre d'idée des dommages que pourrait causer un tel impact, si l'astéroïde touchait une zone habitée, la ville de Lyon serait complètement rasée. Mais parmi toutes ces prédictions, je ne vous ai pas dit la plus importante. L'astéroïde a en fait très peu de chances de toucher notre belle planète. Une chance sur 625, soit 89,84% chance que l'on soit épargné, sans parler du fait que les prochains calculs des chercheurs pourraient réduire à néant les risques que l'on soit touché. Pas d'inquiétude à avoir. Les jours se font de plus en plus longs, le temps de plus en plus clément et les températures de plus en plus chaudes. Et on ne dit pas non à cela, mais avec cette météo, notre ennemi numéro 1 pourrait être de retour, le moustique. Le retour aussi d'un nombre incalculable de techniques pour s'en débarrasser. Et bien des chercheurs se sont penchés sur la question et de manière très sérieuse. C'est une équipe de chercheurs de l'Institut John Hopkins qui s'est emparée du sujet et qui a mené des tests. Ils ont réussi à cartographier des récepteurs présents sur les cellules nerveuses des insectes. Et ces récepteurs permettent aux moustiques de trouver plus facilement un chemin vers notre peau. Ces récepteurs, dits ionotropes, pourraient nous guider pour guider les insectes vers certains types de peau plutôt que d'autres. Cela est dû à la présence de certains acides aminés dans notre corps. Pas de chance donc si vous êtes plus piqué que vos amis en vacances. Les chercheurs américains continuent activement leurs recherches sur le sujet car ils pourraient créer des répulsifs à moustiques plus efficaces et donc empêcher la piqûre et la transmission de maladies. Rappelons-le, le moustique est l'animal qui tue le plus au monde avec parfois 1 million de morts par an.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Cela fait maintenant plus de 40 ans que les premiers ordinateurs personnels ont été créés et qu'aujourd'hui, tout le monde est familier, ou presque, avec l'informatique. Aller sur Internet, répondre à des mails, travailler ou jouer, tout ça est devenu notre quotidien. Mais derrière cela se cachent beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. Les algorithmes, les données, les problèmes, l'informatique, mathématiques, ce sont les domaines sur lesquels travaille l'équipe AMAC du laboratoire grec, le laboratoire de recherche en sciences du numérique, et avec nous, Paul Dorbeck, responsable de l'équipe AMAC et professeur à l'Université de Caen. Bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner aussi, Julien David, membre de l'équipe AMAC et maître de conférence à l'Université de Caen. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, pour bien définir le terme et ne pas le confondre avec d'autres, algorithme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe?
Alors, un algorithme, c'est simplement un mode d'emploi, une méthode à appliquer comme une recette de cuisine, comme une succession d'étapes qu'on va demander à un ordinateur d'appliquer pour résoudre un problème.
Si je peux ajouter, à la différence de l'informatique, l'algorithmique est une discipline. Enfin, les algorithmes en soi existent quasiment depuis l'invention de l'écriture. En tout cas, dès les premières traces d'écriture chez les Babyloniens, sur des tablettes d'argile, on retrouve des descriptions de méthodes qui paraissent aujourd'hui encore très modernes dans leur style de rédaction et qui sont clairement des algorithmes. Ça va de calculer la quantité de grains qu'on est capable de stocker dans une réserve à grains, en fonction des dimensions, être capable de calculer les intérêts qu'on va recevoir après avoir prêté de l'argent sur une certaine durée de temps. Et ça se retrouve dès l'invention de l'écriture, donc c'est les Babyloniens.
Et donc, quelle différence entre l'algorithme dont vous venez de parler et l'algorithme informatique?
Alors, en soi, on pourrait se dire que ça va surtout être le langage qu'on va utiliser pour décrire les choses qui va permettre de faire comprendre à un ordinateur la méthode qu'on a envie d'appliquer pour résoudre un certain problème. Pour ce qui est par exemple du calcul, vraiment ce que je viens de citer, donc par exemple calculer les intérêts d'un prêt, un ordinateur est tout à fait capable de le faire, c'est des opérations mathématiques, là c'est vraiment les choses qui se retrouvent à être le plus simple. Dans les exemples que Paul ont cités, par exemple la recette de cuisine, on pourrait imaginer avoir un ordinateur qui est capable de nous dire des méthodes à suivre.
Ou un robot qui va appliquer une méthode. Donc en fait, surtout entre l'algorithme tel qu'on le voit aujourd'hui et l'algorithme, la méthode générale, souvent la différence aujourd'hui, l'opérateur, la personne qui va exécuter les instructions, ça va être un ordinateur. Et en fait, ça a quand même une dimension en plus, c'est-à-dire que l'humain, quand il exécute une méthode, il est capable de comprendre beaucoup d'implicites. Il est capable d'innover, de prendre des initiatives en se disant là, on me demande de faire ça, je vais court-circuiter un petit peu parce que j'ai déjà un bout de ce dont j'ai besoin qui est prêt. Alors qu'un ordinateur va être totalement limité dans ses actions à ce qu'il est capable de faire à la base. Et donc, si ce n'est pas prévu dans l'algorithme, il ne va prendre aucune initiative différente. Il va vraiment appliquer à la lettre. Par contre, il est beaucoup plus rapide sur les instructions élémentaires. Donc, ça compense sa capacité d'action, quoi.
Et est-ce qu'il y a plusieurs types d'algorithmes ou des algorithmes plus complexes, plus faciles?
Alors, il y a plein de types d'algorithmes. Et en fait, donc si on reste maintenant un peu sur les algorithmes modernes qu'on met sur les ordinateurs, on va dire, on va avoir des algorithmes qui sont... En fait, la plupart des algorithmes pendant longtemps étaient des algorithmes dont toute la méthode avait été décrite par un humain. La personne qui écrit l'algorithme est capable de savoir précisément toutes les opérations qui vont être faites. C'est juste que l'ordinateur va être un accélérateur, va permettre de faire toutes ces opérations très vite. Et puis, on a une autre famille d'algorithmes qui apparaît aujourd'hui. Alors, j'en oublie peut-être, une autre famille d'algorithmes qui apparaît aujourd'hui, des algorithmes par apprentissage, où là, en fait, l'idée, c'est qu'on n'explique pas à l'ordinateur quelles étapes il va faire pour résoudre un problème, mais on va lui expliquer comment il va s'adapter. Ouais, il va résoudre le problème plein de fois, il va adapter sa méthode aux résultats des opérations précédentes.
Donc on imagine avec la progression de la technologie, vraiment les ordinateurs aujourd'hui ont pu vraiment résoudre beaucoup plus de problèmes d'algorithmes que l'on faisait il y a 20 ans, 40 ans.
Alors pour ce qui est par exemple des algorithmes par apprentissage, ce qui a principalement donné, c'est des méthodes qui ont été initiées dans les années 80. Et ce qui a vraiment évolué, c'est la quantité de données qu'on avait pour justement permettre à l'algorithme d'apprendre quelles étaient les réponses optimales qu'on attendait. C'est vraiment ce qui a évolué dans ces 20 dernières années. En termes de puissance de calcul, j'ai pas l'impression qu'on ait tant évolué que ça dans les 20 dernières années. En revanche, voilà, ce qui va changer, c'est...
Dans les 40 plutôt, on va dire, sur la puissance de calcul.
Mais en termes de capacité de stockage, aujourd'hui, les entreprises ont des capacités de stocker des milliards et des milliards de textes, de photos, de vidéos, avec lesquelles les algorithmes vont pouvoir avoir des phases d'apprentissage beaucoup plus importantes que ce qui était le cas il y a plusieurs décennies, ce qui a engendré les résultats assez impressionnants qu'on a aujourd'hui.
Et pour bien comprendre à quel point les algorithmes nous entourent, à quel moment dans notre quotidien on touche à des algorithmes, nous, personnellement ?
La question, il faudrait la retourner, je pense. C'est à quel moment on ne touche pas à des algorithmes ? Parce que maintenant, tout appareil électronique quasiment a un processeur et applique des algorithmes. Donc l'enjeu, il est toujours dans à quel moment on bascule de une routine toute bête à un algorithme. Donc aujourd'hui, le mot algorithme a pris une ampleur un peu plus importante. Mais en fait, simplement, quand on touche n'importe quel appareil électronique, téléphone, voiture, dedans, il y a des processus qui sont appliqués. Et ces processus, ils obéissent à une suite d'instructions. Et cette suite d'instructions, c'est un algorithme, en fait.
En dehors de ça, même en dehors des appareils électroniques, chaque personne, à chaque fois qu'il va appliquer une recette de cuisine, les personnes qui font du tricot, ils appliquent des algorithmes. C'est pas comme ça qu'ils l'interprètent, mais d'une certaine manière, c'est ce qu'ils font.
Tout le monde touche à des algorithmes. Pour parler un peu de vos recherches au sein de l'équipe AMAC, vous avez fait un schéma et une vidéo sur le sujet avec trois termes principaux que l'on a déjà évoqués, algorithme, données et problèmes. C'est quoi le lien entre ces termes, les données, les problèmes et l'algorithme ?
Alors, donc, l'algorithme, c'est une méthode qui permet, qui a un objectif. L'objectif, c'est de répondre à un problème, donc de donner une solution à un problème. Et ce problème, en fait, c'est un problème qui est générique, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul problème, c'est un problème qui est posé sur résoudre une question sur une donnée d'entrée. Donc on peut aussi s'intéresser à l'ensemble des données à l'entrée. La donnée, c'est l'instance du problème. Si je prends une question, c'est faire une division, les données, ça va être de quel nombre je vais diviser par quel nombre. Et puis, la réponse, ce sera le résultat de la division. Donc après, on s'intéresse à des problèmes un peu plus généraux, un peu plus génériques. L'idée, c'est donc ces trois éléments, c'est ça. Les données, c'est dans quel cas je veux résoudre mon problème. Et le problème, il va être plus générique, c'est... faire une division, ou c'est trouver une bonne affectation de dépôt. Ça peut être trouver une affectation de couleur sur des éléments. Moi, je pense à des problèmes de graphes parce que c'est les problèmes sur lesquels je travaille, mais trouver une coloration d'une carte de géographie, tout ça, c'est des problèmes. Et en fait, la donnée, ça va être la carte, ça va être le support sur lequel on veut résoudre les problèmes. L'objectif du schéma, c'est que... Presque toute personne qui fait de la recherche en informatique s'intéresse à un problème sur un ensemble de données ou un type de données et va chercher des bons algorithmes pour résoudre ce problème efficacement. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de s'abstraire un petit peu de ça pour dire je ne m'intéresse plus à un problème spécifique mais je vais me prendre vraiment une famille assez large et je vais étudier cette relation entre la donnée, le problème et les algorithmes, parce qu'il n'y a pas qu'un seul algorithme pour résoudre un problème, et les algorithmes qui vont traiter ça comme des objets mathématiques sur lesquels j'ai envie de décrire, de comprendre des fonctionnements intrinsèques aux objets.
Ça paraît un peu compliqué, mais dans les détails, sur quel genre de données vous travaillez ?
Peut-être donner un exemple. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on est en train de travailler en particulier, mais je pense que c'est un exemple assez parlant et quelque chose que les gens ont l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, sur un ordinateur ou sur votre téléphone, vous recherchez par exemple un mail particulier en fonction d'un mot-clé qui serait apparu dans le mail. Ou alors sur une page web, vous cherchez à quel endroit apparaît un mot-clé. Donc le problème est le suivant, vous avez un texte, vous avez un motif, en l'occurrence un mot, une phrase, que vous cherchez à l'intérieur de ce texte, où se trouve le mot dans le texte. Donc voilà le problème. Depuis les années 60, on a eu une centaine d'algorithmes qui permettent de répondre à ce problème. Donc différentes méthodes qui vont chacune parcourir le texte de manière différente et qui vont être plus ou moins efficaces suivant les types de textes qu'on va lui faire lire. Donc par exemple, dans mes travaux de recherche, le genre de choses que je vais faire moi, c'est de me fixer sur un ou plusieurs algorithmes qui se ressemblent en particulier et de me dire, bon bah, ces algorithmes-là, quand est-ce qu'ils sont efficaces, quand est-ce qu'ils ne sont pas efficaces. Et pour ça, je vais surtout m'intéresser aux propriétés sur les données, c'est-à-dire je vais regarder les données et je vais me dire, là, quand, si je change un paramètre sur mes données, sur mon texte, est-ce que ça change le comportement de mon algorithme ? Est-ce qu'il devient plus efficace ? Est-ce que ça ne change rien ? Et je vais essayer d'identifier ce qui, sur mes entrées, mes données, va changer le comportement de l'algorithme.
Vous avez parlé d'inspiration. Est-ce que vous inspirez d'anciens algorithmes pour résoudre des problèmes ? Ou est-ce que vous en découvrez tous les jours de nouveaux ?
Alors, tous les jours, non. typiquement, dans le domaine que je viens de citer, il y en a déjà une centaine, donc je pense même pas qu'en plus apporter un 101e algorithme soit nécessairement très utile. Il y a vraiment effectivement à avoir deux aspects. C'est tenter de découvrir, de comprendre l'existant, déjà pour essayer de comprendre dans quel cas utiliser un algorithme plutôt qu'un autre, en fonction des données qu'on a en entrée, et comprendre l'existant dans le but de l'améliorer et de concevoir un nouvel algorithme. Les deux existent. Et j'ai envie de dire que les deux nous intéressent en soi. Si on arrive à obtenir quelque chose qui n'avait pas été encore découvert en comprenant le fonctionnement de l'ancien, on est très content. Mais en soi, le simple fait de mieux comprendre, c'est déjà une réussite en soi.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui datent de plusieurs décennies qui peuvent encore nous aider aujourd'hui à traiter des informations, à traiter un nombre de données conséquent qu'on connaît aujourd'hui avec l'amplification d'Internet et tout ça ?
Alors oui, enfin il y a des algorithmes dont on, en fait même on étudie des algorithmes qu'on utilise, qu'on continuera d'utiliser des fois, simplement pour mieux comprendre pourquoi ils marchent bien. Parce que des fois on a des méthodes où on se dit le problème est difficile, les algorithmes qu'on a devraient pas bien marcher, ou il y a des situations, des instances, des données sur lesquelles ils marchent pas bien. Mais de façon pratique, souvent, sur plein de données d'entrée, ils marchent bien et on a envie de comprendre ça. Donc du coup, on travaille sur ces mêmes algorithmes qui sont potentiellement de vieux algorithmes. Et puis, il y a des nouveaux challenges aussi. C'est-à-dire que il y a 20 ans, on avait une puissance de calcul qui avait augmenté, mais on essayait de traiter des problèmes de plus en plus difficiles de façon efficace sur une machine. Et aujourd'hui, on a des problèmes simples qui sont redevenus difficiles parce que la quantité de données, la quantité de traitement à faire a explosé. C'est-à-dire que la quantité d'informations sur Internet a beaucoup augmenté. Donc si on reprend l'exemple de chercher un mot, quand on cherchait un mot dans une page, c'est facile. Si on cherche un mot dans un livre de 10 000 pages, c'est déjà plus difficile. Et aujourd'hui, on est encore à une échelle bien supérieure, puisqu'on va, par exemple, chercher parmi des quantités d'informations qui sont plus stockables, dont on ne peut plus les mémoriser. Donc la quantité d'informations arrive en flux continu et on n'a pas la capacité mémoire de les stocker, mais on va devoir traiter au fur et à mesure et essayer d'identifier les bonnes réponses. Donc du coup, des problèmes qui paraissaient anodins et très simples au départ, liés à la quantité d'informations à traiter, deviennent de nouveau difficiles, deviennent de nouveau des challenges. Et on se réintéresse à des vieux algorithmes qui avaient pu passer de mode parce que avec des ressources plus importantes, on était capable de mieux résoudre les problèmes, mais finalement qui redeviennent intéressants parce qu'on n'est pas capable d'avoir les ressources à la hauteur de la quantité d'informations qu'on traite.
Les ressources, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la puissance du traitement d'un ordinateur ?
Ça veut dire, Ça veut dire la capacité du processeur, hein, la rapidité de calcul. Ça veut dire la capacité de mémoire, la capacité de stocker. Donc, il y a deux grosses ressources en algorithmique. Il y a la ressource espace, donc c'est la quantité de mémoire, la quantité d'informations qu'on est capable de mémoriser. Et puis, la quantité de temps, donc le temps de calcul que le calcul s'exécute. Et donc, parfois, on est obligé de faire un compromis. C'est-à-dire que quand les informations ne sont pas trop énormes, on peut envisager de mémoriser beaucoup de choses pour accélérer le calcul. Quand les informations deviennent gigantesques, à ce moment-là, on ne peut plus tout mémoriser. Et on est obligé soit de faire un compromis sur le temps, mais on ne peut pas forcément, soit de faire un dernier compromis sur la qualité du résultat. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on n'est plus capable, par exemple, de... Alors, on peut imaginer un site très populaire et avec beaucoup de personnes qui viennent cliquer, qui viennent voir, et on voudrait savoir quel est le nombre de personnes exactes qui s'est intéressé à ce site. À ce moment-là, c'est très facile à faire si on est capable de mémoriser toutes les personnes, tous les numéros de les numéros IP ou les numéros de téléphone, entre guillemets, de tous les gens qui nous ont sollicités. Mais si le nombre de personnes est bien trop grand, on ne peut plus tout mémoriser, on ne peut plus tout noter dans un calepin, et donc on va être obligé de faire des approximations, de dire bon, je ne suis pas sûr que ce soit exactement le bon nombre, mais à un petit taux d'erreur près, voici le nombre de personnes qui ont dû venir.
Oui, j'allais rebondir aussi sur cette histoire d'explosion des données, pour donner des idées d'ordre de grandeur. Aujourd'hui, un ordinateur, c'est capable, quand ça effectue des calculs, d'effectuer quelque chose qui est de l'ordre du milliard de calculs à la seconde. Ça peut être 1 milliard, 2 milliards, 4 milliards, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Si aujourd'hui, vous avez une quantité de données sur laquelle il va falloir effectuer, je ne sais pas, par exemple, 1 milliard de calculs, ça signifie que votre calcul se fait en 1 milliard de secondes. Et là, on passe sur 32 ans. Donc, on a besoin. Enfin, il n'est pas réaliste de se dire qu'on va réussir à effectuer ce calcul dans un temps raisonnable. Donc, il va falloir ruser, soit en séparant le calcul sur plein d'ordinateurs, mais là encore une fois, ça risque d'être très coûteux, soit en essayant de rechercher des réponses approchées, mais qui vont être plus rapides à effectuer.
Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute ensemble Olélé de Fakir sur Radio Phoenix.
Thank you.
C'était Olélé de Fakir sur Radio Phoenix. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est pas faux. Et on reprend notre discussion avec Paul Dorbeck et Julien David, membres du laboratoire grec sur les algorithmes. On parlait à l'instant du compromis à faire entre un nombre de données extrêmement important et un problème à résoudre. Est-ce que quand on voit parfois des grandes entreprises utiliser des ordinateurs quantiques, on se dit que c'est peut-être la solution, c'est ces machines ultra puissantes qui pourraient permettre de résoudre des centaines de milliers de calculs de problèmes à la seconde?
Alors là, la question est difficile parce que il y a deux choses. Donc d'abord, il y a l'algorithmique quantique qui a été étudié depuis déjà longtemps. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'intéresse aux algorithmes qu'on pourra faire quand on aura un vrai ordinateur quantique. Et donc cette algorithmique est extrêmement performante et permet de résoudre des problèmes qui sont inaccessibles aux ordinateurs classiques. Donc ça, ça serait... Alors, je reste au conditionnel, ce serait une révolution et parce que ça permettra de changer certaines choses. Ça va changer... On s'y prépare. Dans l'équipe, on a Adeline Roulanglois qui travaille sur une nouvelle cryptographie pour une fois que les ordinateurs quantiques seront capables de résoudre des problèmes, parce que ça va casser les systèmes cryptographiques usuels qu'on utilise pour notre carte bleue tous les jours. Mmh. Donc il faut inventer des nouveaux algorithmes justement pour protéger des informations. Alors, mais pour l'instant, on n'a pas ces ordinateurs. Donc, on entend beaucoup d'effets d'annonce sur des ordinateurs ayant un certain nombre de qubits qui font des calculs. On entend aussi parler de recuits simulés quantiques, donc des méthodes de recherche de solutions optimales utilisant du quantique. Mais alors je n'ai pas l'expertise suffisamment récente pour répondre précisément, mais je sais que lors d'échanges précédents, pour l'instant, on n'a pas encore... passer le pas de être capable d'appliquer des algorithmes quantiques au sens où on les étudie depuis 20 ans et au sens où ils révolutionneraient la chose. Et donc, y a toujours on a un modèle de calcul classique qui permet de modéliser les calculs qu'on fait, qu'on appelle la machine de Turing. Et cette question, alors je n'ai pas la réponse aujourd'hui, je sais qu'en discutant avec un collègue qui fait de l'informatique quantique justement, il y a quelques années, il me disait pour l'instant, les ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui, avec les quelques qubits qu'on a, on n'est pas sûr qu'ils dépassent la capacité d'une machine de Turing standard, donc d'un ordinateur. Alors, ça donne quand même des opportunités nouvelles, mais ça révolutionne pas notre capacité à créer des algorithmes. On continue d'avoir les mêmes systèmes d'opération. Et puis, en tout cas, on n'a pas atteint ces nouvelles opérations qui seraient ouvertes par l'algorithmique quantique.
Et pour vous bien comprendre, je vous coupe.
Ce qui est très compliqué pour nous à percevoir en tant qu'informaticien, c'est que la conception des machines quantiques ne relève pas de l'informatique. C'est du travail de physiciens, de personnes qui travaillent dans l'électronique. Donc, on a extrêmement du mal à voir et à se projeter sur dans combien de temps les ordinateurs quantiques vont devenir une réalité applicable dans l'industrie typiquement de casser les systèmes de sécurité actuels. C'est extrêmement complexe pour nous parce que on est comme le Kidam, on n'a pas plus d'expertise que le Kidam sur ce point de vue.
Est-ce qu'il y a un manque de communication entre les physiciens du coup et les personnes qui travaillent sur les algorithmes pour créer une relation entre eux?
Non, je pense pas que ce soit un manque de communication. Je pense que c'est un problème de... Enfin, c'est de la recherche. Mmh. Donc, les physiciens définissent un modèle. Ils disent, il faut qu'on fasse ça comme ça. Et ils créent l'objet. Et puis après, on essaye d'utiliser l'objet. Donc, on n'a pas forcément... pour l'instant, on n'a pas les capacités techniques pour maintenir les qubits dans le bon état suffisamment, etc. Donc, ça fait que, techniquement, il y a des problèmes de mise en œuvre. Donc, il y a encore un saut à franchir,
franchir. Pour bien comprendre, vous travaillez avec quels outils ou plutôt quels logiciels pour faire vos recherches?
Alors, ça va être décevant, mais on travaille beaucoup avec des feutres et des tableaux, des papiers et des crayons pour réfléchir sur comment fonctionnent les algorithmes. Ensuite, on fait des petites implémentations en général. Donc, on utilise des langages de programmation que utiliserait un étudiant en informatique standard. Et puis, pour notre part. Hein. Et puis, sinon, les logiciels qu'on va utiliser, c'est juste des logiciels qu'on va utiliser pour diffuser nos recherches. Donc, mais en fait, notre approche, elle est vraiment en se disant, on se pose la question de l'algorithme, son comportement, dans des situations en moyenne ou dans des situations en catastrophe, enfin, critiques pour l'algorithme. Et ces situations-là, donc en moyenne, on pourrait se dire, il suffit de tirer aléatoirement plein d'entrées et puis d'essayer de faire ça sur des schémas aléatoires. Sauf que ça ne nous donne pas une réponse précise, ça nous donne un ordre de grandeur, ça nous donne une estimation, mais ça ne répond pas à la question qui est, est-ce que c'est vraiment ce comportement-là ? Est-ce que je peux justifier pourquoi c'est ce comportement-là, le comportement standard sur une entrée quelconque ? Et puis quand on va s'intéresser à du pire cas, donc à des situations qui sont problématiques pour l'algorithme, on peut imaginer des algorithmes assez facilement qui marchent bien presque tout le temps, et puis de temps en temps ça rate et on ne sait pas pourquoi. Enfin, ça rate, ça met du temps, c'est compliqué, et on ne sait pas pourquoi. Et quand on va étudier ces cas-là, en fait, on ne va pas du tout utiliser des gros outils informatiques pour résoudre le problème. On va utiliser notre cerveau en se disant, ben, on essaye de vraiment comprendre les différentes étapes et d'avoir un effort d'imagination en disant, mais qu'est-ce qui pourrait se passer pour que cet algorithme-là ne soit pas efficace ? Et du coup, en fait, c'est vraiment... principalement de la réflexion, c'est pas du tout de l'observation de mécanismes, c'est vraiment de la compréhension, de la simulation et puis de l'anticipation sur « Ah mais dans cette situation-là, il pourrait se passer un problème ».
Je rebondis sur ce que tu dis, effectivement je vais utiliser finalement très peu d'outils. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai cette tendance à vouloir le développer moi-même pour être sûr de savoir ce qui se passe exactement. Si j'ai pas accès au code source, c'est-à-dire au langage qui a permis de définir le programme, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'être capable de réfléchir sur ce qui s'est passé quand j'exécute un programme. Étant donné que notre but, ça va être souvent d'analyser le comportement des algorithmes, il vaut mieux avoir écrit les choses soi-même pour être sûr de ce qui se passe exactement. Donc, pas mal de choses faites maison, on va dire. Après, ce qui peut arriver, c'est avoir besoin de... logiciel de calcul, donc vraiment imaginer des grosses calculatrices avec plein de fonctionnalités qu'on n'avait pas au lycée, mais on reste vraiment sur des choses très, très, très basiques et après effectivement le bloc-notes, le tableau pour réfléchir.
Vous avez utilisé un terme sur lequel j'aimerais qu'on revienne, le pire cas. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Est-ce que ça arrive souvent qu'un algorithme ait du mal à répondre à un problème ?
Alors c'est un peu la question qu'on se pose. Donc sur beaucoup d'algorithmes, on se rend compte que... alors, on a des preuves de pire cas où on dit, en fait, sur on fabrique des instances, on fabrique des problèmes exprès en disant, regardez, ce problème-là, il entre dans la famille de problèmes que l'algorithme doit résoudre et il va poser un gros problème à l'algorithme. Quand on les fabrique, c'est des problèmes qui sont vraiment spécifiques, donc on a construit exprès pour piéger l'algorithme. Et c'est pas un problème qu'on aurait tiré comme ça au hasard si jamais on cherchait un problème quelconque. Alors, du coup, la question un petit peu qu'on se pose effectivement, c'est si je prends les problèmes concrets, est-ce qu'ils sont souvent proches du pire cas ou est-ce qu'ils sont souvent proches d'un cas assez facile ? Très souvent, le pire cas est vraiment spécifique et c'est anecdotique les cas où ça arrive. Les seules situations où effectivement on a envie d'avoir le pire cas presque tout le temps, c'est les situations de cryptographie. Où on a envie que ce soit toujours difficile. Mais, alors pour prendre un autre exemple, moi j'ai travaillé avec Laurent Simon qui travaille sur un problème en particulier, le problème de satisfiabilité de formule booléenne. Donc c'est un problème, ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est un problème qu'on utilise beaucoup pour modéliser d'autres problèmes en informatique. Et la petite expérience, c'était que donc il a fait un solver qui utilisait un petit peu d'apprentissage, qui utilisait différents éléments pour résoudre des formules logiques, savoir est-ce qu'il y a il y a une formule logique, est-ce qu'il existe une solution ou pas. Et il gagne des concours avec cet outil qui s'appelle Glucose. Enfin, il gagnait des concours avec cet outil, très fier, très content. Et il a raison. Surtout que sur les problèmes industriels, ça marchait toujours très bien. Et un jour, il vient me voir parce qu'il s'intéressait à une conjecture. Enfin, il avait vu que quelqu'un avait résolu une conjecture, un problème mathématique d'ampleur, en utilisant son outil. Et il m'a dit « Ah, c'est super, on pourrait travailler ensemble. Peut-être qu'il y a d'autres conjectures sur lesquelles on pourra avancer grâce à ça. »
Alors, tu peux juste rappeler ce que c'est une conjecture ?
Ah oui, d'autres questions. Une conjecture, c'est juste on est convaincu que telle propriété est vraie, mais on ne sait pas encore le prouver. Tout mène à penser que ça doit être vrai quelque part, mais on peut pas en être complètement sûr puisque on n'est pas capable de justifier mathématiquement ou préciser pourquoi est-ce que ce sera toujours vrai. Et du coup, on s'est intéressé à des cas et j'arrive avec une formule booléenne qui modélise une conjecture célèbre qui s'appelle la conjecture de Ramsey sur des petites instances, enfin le calcul du nombre de Ramsey. Et donc on propose ça et il regarde la donnée, la formule que j'ai générée pour lui proposer et il me dit, bon, vu la taille de la formule, ça va être hyper facile, on va résoudre le problème en quelques instants. Et là, il lance l'outil et assez vite, il me dit, en fait, non, on ne va pas le résoudre en quelques instants parce qu'on était typiquement dans une de ces rares instances où on a un aspect combinatoire. Donc, il y a des symétries dans les problèmes partout, dans tous les sens. Et il n'y a pas, donc souvent, si on veut, pour aborder un problème, on va utiliser des points d'entrée où on va être capable de déduire des choses automatiquement et d'avancer assez vite. Et là, de toutes les facettes, ça a les mêmes aspects, quel que soit l'angle sous lequel on observe le problème. Et du coup, avec un problème relativement petit, on se rendait compte que... Et un peu artificiel quand même, hein, puisque... Mais on se rendait, il est apparu que son solver qui résolvait des problèmes de grosse taille, de façon impressionnante... il ne s'attendait pas du tout, vu la taille du problème que je présentais, que ce soit un problème difficile. Et on a essayé d'améliorer un peu les choses, de travailler dessus pour casser un peu la difficulté. Mais on n'a pas été capable d'aller aussi loin que des choses qu'on savait déjà, simplement avec d'autres outils, quoi.
Et donc, quelle était la solution du problème ? Est-ce que ça, vous l'avez dit, une amélioration du traitement, une amélioration de l'algorithme ? Comment ça s'est passé ?
On n'a pas résolu le problème, la conjecture en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, la question c'était « Ah tiens, peut-être qu'on peut utiliser cet outil pour améliorer nos connaissances sur, sur la question. » On s'est rendu compte que cet outil ne nous aiderait pas. Ce n'est pas le bon outil.
Mmh. Moi, je voudrais venir concrètement, je suis un peu curieux de savoir à quoi un peu ressemble le quotidien d'un chercheur. Concrètement, à quoi un peu ressemblent vos journées ? Vous avez parlé, donc vous arrivez un matin, vous prenez vos bloc-notes et puis vous vous penchez sur un algorithme. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des journées types dans la vie d'un chercheur ?
Je peux répondre. Il y a l'aspect qui est un peu atypique, qui est qu'on fait d'une certaine manière plusieurs métiers à la fois. On est enseignant-chercheur. Ce qui veut dire qu'il y a des périodes de l'année où on va être très concentré sur les enseignements. Certain nombre de choses à préparer, de choses à corriger, de l'administration à faire. On peut être responsable d'année, responsable de l'IUT, responsable de diplôme. Enfin, on va être occupé par un certain nombre de tâches. Et sur ces périodes-là, la recherche, on va avoir tendance à la faire sur le temps libre, enfin dans les trous dans l'emploi du temps, quoi. L'approche du printemps et de l'été, on a beaucoup moins de cours. Et c'est là où on va pouvoir avoir des longues périodes sur lesquelles on va pouvoir se poser, soit à plusieurs, soit seul effectivement, et là, vraiment prendre toute la journée pour se poser devant un tableau. Ça nous arrive à tous, je pense, d'être assis sur une chaise à regarder un tableau blanc et à ce qu'il se passe pas grand-chose pendant un certain temps, avec les bonnes journées et avoir des moments où ça se débloque et on commence à rédiger, des journées décevantes où, où ça progresse pas trop, c'est assez inégal justement. Une journée type, je trouve ça difficile à décrire.
Pour être un peu positif quand même, souvent, c'est pas on est assis, on regarde le tableau à rien faire. Souvent, on a des idées, on essaye des choses. Alors après, ça marche, ça marche pas. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Faut être un peu teigneux, faut continuer, faut insister. Ça marche pas, je vais chercher autrement. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile à plusieurs, du coup. Parce que quand on est tout seul, on a tendance à se démoraliser un petit peu en se disant « Ah ben, mon idée, elle marche pas, qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas. » Alors qu'à plusieurs, pendant que quelqu'un expose son idée, se rend compte que finalement, elle permet pas d'aller au bout, le collègue qui est à côté se dit « Ah mais moi, par contre, ça me donne une autre idée » et il rebondit. Donc souvent, à plusieurs, on avance mieux, je trouve.
C'est du ping-pong. Hein.
Les idées rebondissent d'un chercheur à l'autre, on avance comme ça, et puis...
C'est aussi beaucoup plus agréable d'avoir quelqu'un à exposer, à qui exposer ses hypothèses, plutôt que d'essayer d'être tout seul et d'essayer de se contredire soi-même pour vérifier si une idée fonctionne. Quand on a un interlocuteur à qui expliquer son idée, on va pouvoir donc expliciter les choses à l'oral ou à l'écrit, et voir beaucoup plus rapidement s'il y a quelque chose qui est une bonne piste ou une mauvaise piste.
Oui, ça permet d'approfondir aussi. Souvent, on a une idée, et puis en verbalisant l'idée, en décrivant l'idée à son collègue. Donc, c'est la phase la plus sympa de la recherche. Mmh. C'est le moment où on est plusieurs, on est dans une pièce, et puis on échange sur le problème, cherche l'idée qui va marcher, on cherche la solution, la piste qui va nous permettre de débloquer le problème. Il y a tout un tas d'autres phases donc, qui sont très différentes. Il y a une phase de rédaction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé, qu'on a dit « bon, c'est tout bon », à ce moment-là, il faut diffuser ce résultat. Donc il faut écrire des articles très carrés, très rigoureux pour expliquer et convaincre surtout n'importe qui, seulement sur cette base d'articles, que ce qu'on a trouvé, c'est juste. Donc ça prend aussi un peu de temps. Alors il y a une phase en amont qui est de trouver le bon problème, parce qu'il y a plein de problèmes de conjecture, comme je disais tout à l'heure, qui existent, mais il y en a beaucoup qui sont très difficiles. Donc il va falloir trouver des situations un peu plus faciles, trouver des sous-questions, des petits bouts du problème qu'on va pouvoir résoudre, afin de petit à petit avancer, grignoter le gros problème pour que peut-être qu'un jour tout se détricote d'un coup. Et puis il y a toutes les phases autour de tout ça. Donc quand je disais, on rédige des articles et on les envoie aux collègues pour qu'eux, ils puissent valider notre recherche, il faut aussi relire les articles des collègues pour pouvoir dire ça, c'est bon. Il faut aussi aller diffuser dans des conférences. Donc, donc ça, c'est juste sur la partie recherche, auquel il faut ajouter la partie enseignement, la partie gestion des universités, puisque c'est beaucoup les collègues enseignants-chercheurs qui travaillent aussi sur l'animation, l'organisation des universités. Donc ça reste un métier très varié. La seule difficulté, c'est de ne pas se laisser complètement
happer par une dimension ou une autre. Ouais.
J'aimerais qu'on reparle de la phase de rédaction. Vous avez dit convaincre n'importe qui. C'est qui, c'est n'importe qui? Et pourquoi est-ce que vous essayez de les convaincre?
Alors, l'idée, c'est que pour que... Si moi, je suis convaincu que quelque chose est vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Par contre, si j'arrive à le décrire suffisamment bien pour que n'importe qui puisse, qui suive le déroulé et me dise « ah bah oui, d'accord, t'as raison », à ce moment-là, on pourra estimer que c'est une vérité, quoi. Mais alors là, ça devient très philosophique, hein, sur qu'est-ce que c'est qu'une vérité. Mais alors, la question, du coup, c'est n'importe qui. Les publications qu'on écrit, les articles, sont diffusés en général de façon... Alors, il y a beaucoup de débats sur le fait qu'il y ait des éditeurs privés qui ferment un peu l'accès aux informations. Mais aujourd'hui, c'est devenu très régulier. Que les informations soient aussi diffusées sur des plateformes qui sont accessibles. Donc, il y a deux plateformes principales, je dirais, en France. Il y a HAL, H-A-L, qui est un hébergeur d'articles archivés en ligne. Et il y a Archive, qui est beaucoup plus international. Donc, c'est nos deux outils qu'on utilise pour diffuser cette information. Et à ce moment-là, donc, n'importe qui, ça peut être toute personne qui irait lire ça. Bon, après, pour être très sincère, souvent, il faut être un peu spécialisé dans la thématique pour vraiment lire et comprendre les arguments qui sont donnés. Donc, les gens qu'on va convaincre, c'est plutôt des collègues chercheurs d'autres universités, voire d'autres pays, d'autres continents, qui vont, eux, travailler sur des questions proches et qui vont, eux, pouvoir pouvoir vérifier que ce qu'on dit est vrai sans faire un effort trop énorme. Mais néanmoins, ça reste accessible à tous et c'est aussi une grande chance, je pense, d'un point de vue sociétal aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant longtemps, les éditeurs privés gagnaient beaucoup d'argent grâce à ces publications. Aujourd'hui, grâce à des plateformes de publication en ligne comme ça, non seulement y a un aspect économique un peu plus juste, mais en plus, ça peut donner aussi accès à ces publications à des chercheurs qui viendraient de pays moins bien dotés en termes de bibliothèques, etc. Et ça, quand on voyage dans des pays moins riches, on constate bien que selon le canal de communication, on arrive plus ou moins à diffuser vers eux et ils ont plus ou moins l'opportunité de s'en servir.
Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que pour ces publications, de les transmettre à d'autres chercheurs et qui continuent vos recherches ou en tout cas recherches en parallèle de ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il peut y avoir des applications concrètes à vos recherches dans la vie de tous les jours?
On espère bien. Alors, en fait, souvent, il y a quand même deux stades. C'est-à-dire qu'on essaye de... Alors, surtout sur ces thématiques assez mathématiques, hein, mais il y a un premier stade où on essaye de vraiment comprendre le problème, de s'intéresser au problème comme vraiment un problème mathématique. Et à ce moment-là, on ne se pose pas la question des applications, parce que c'est souvent les applications... Dans une application, il y aura... Le problème, et il y a beaucoup de bruit autour, alors j'appelle ça du bruit, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui viennent interférer avec ce cœur du problème, qui ne sont pas forcément des éléments très difficiles à résoudre, mais qui viennent cacher le problème sous une couche d'autres choses. Et donc il faut d'une part être capable de traiter ces autres informations, et aussi être capable de s'intéresser au problème difficile qui est au milieu, quoi. Souvent quand on veut progresser sur le problème difficile, ben... On s'intéresse que à lui, on oublie tout ce qui est autour, tout le bruit, toutes les autres choses, parce que ça va détourner notre attention. Et ensuite, dans une deuxième phase, on va imaginer que, alors, soit nous, soit d'autres personnes qui s'y intéressent vont avoir accès à ces résultats, à ces nouvelles informations, et puis vont faire le lien et vont utiliser ça dans des applications. Alors par contre, c'est des temporalités un petit peu différentes, c'est-à-dire que quand on est en train de chercher à améliorer la connaissance du problème pur, on est concentré dessus. De temps en temps, ça nous arrive d'échanger avec d'autres collègues qui disent « Ah, moi, j'ai ce contexte-là, ça me rappelle un peu ce que tu es en train de faire. » Et on peut dire « Bah, effectivement, et on peut utiliser ça. » Et hop, d'un coup, on arrive à appliquer les résultats. Mais la plupart du temps, on va diffuser, on va construire, et puis bah, ça peut être d'autres personnes qui disent « Ah, ton problème, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu ailleurs », et il va aller chercher dans les autres résultats l'élément qui permettra d'avancer, quoi.
Dernière question, vous avez parlé d'acteurs étrangers, de chercheurs étrangers, ça vous arrive de travailler souvent avec d'autres acteurs, et si oui, lesquels ?
Oui, bah, par exemple, nous en ce moment, je co-encadre avec un chercheur qui s'appelle Loïc Lott, un jeune doctorant qui vient d'arriver d'Iran, qui était à l'origine chercheur en mathématiques. On a eu des partenariats avec l'Amérique du Sud. On a un jeune doctorant qui vient de partir au Japon, donc oui, on a des collaborations à l'international.
C'est très courant, et grâce justement à l'amélioration des conditions de visioconférence, etc. Moi, je travaille toutes les semaines. Je fais une visio de 2 heures avec un collègue qui est en Afrique du Sud, et on travaille sur un papier depuis un certain temps, comme ça. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de collaborations internationales, parce que pour répondre à des problèmes qui sont similaires, il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde. Donc quand je travaille sur les problèmes de jeux combinatoires, de théorie des jeux, c'est plutôt avec des gens qui sont au Canada souvent, ou un peu au Portugal. J'ai des collaborations avec la Slovénie, oui, c'est très international. Alors, c'est difficile de savoir pourquoi, en fait, quand on travaille sur un même sujet, c'est souvent avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Mais ça arrive.
C'est le cas. Merci beaucoup, Paul Dorbeck et Julien David, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions au micro de Renovix. Je rappelle, vous êtes enseignant à l'Université de Caen-Normandie et chercheur au sein du laboratoire Le Grec. Merci et bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine. On commence en nous rendant au Dôme la semaine prochaine. L'Université de Caen-Normandie organise la semaine du cerveau et le Dôme vous propose donc un petit avant-goût de cet événement en accueillant l'équipe du laboratoire d'imagerie et stratégie thérapeutique pour les cancers qui pourront répondre à vos questions et faire le point sur nos croyances erronées sur notre cerveau. Vous pouvez vous inscrire sur le site du Dôme, ledôme.info. Cet événement aura lieu le vendredi 17 mars de 10h à 15h30. On termine cet agenda par une recommandation documentaire. Samedi 23 mars à 20h50, vous pourrez retrouver sur Arte l'Afrique vue du ciel. L'eau rythme la vie en Afrique, réputée pour sa sécheresse, le continent est paradoxalement entouré de grands lacs et d'immenses océans et comporte aussi d'importants systèmes fluviaux déployés aux quatre coins du continent. Ces 12 principaux fleuves sont d'ailleurs à la source de civilisations ancestrales. Tous ces points d'eau garantissent une biodiversité exceptionnelle, des chutes Victoria situées à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, en passant par le delta de l'Okavango ou encore le Nil, le plus long fleuve de la planète, mais aussi des cours d'eau plus modestes et moins connus tels la Mara à débit rapide qui sillonnent les plaines de Tanzanie au Kenya. L'Afrique vue du ciel, c'est ce samedi à 20h50 sur Arte et en replay sur arte.tv.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions en podcast sur phoenix.fm. Merci à Anaël qui réalisait cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.